Bonjour à tous. Ce matin, je vous invite à poursuivre notre culte en parlant de Dieu. On avait déjà commencé. C'est un peu le lieu et le moment d'en parler, puisqu'au fond, c'est ce qui nous réunit. En parlant de Dieu, l'Ecclésiaste écrit, chapitre 3, verset 11, « Il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme, l'humain, ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. » Dans une première partie, nous verrons comment les humains vivent et mettent en pratique cette pensée de l'éternité. Dans un deuxième temps, nous approfondirons notre compréhension du divin par rapport à notre confession de foi qui dit « Nous croyons en un seul Dieu qui accueille favorablement tous ceux qui s'approchent de lui par la foi. » Et dans un troisième temps, nous évoquerons l'espérance qui nous habite parce que le Dieu révélé par le texte biblique a un réel projet pour l'humain. Alors, la pensée de l'éternité au cœur de l'homme. Sur Terre, toutes les langues, toutes les cultures comprennent un ou plusieurs termes qui font référence au divin. Un seul Dieu ou plusieurs dieux. Les notions font référence à des divinités extérieures et souvent considérées comme supérieures aux êtres humains qui peuplent la terre. À la pensée de tout être humain, y compris chez ceux qui veulent s'en émanciper et s'en affranchir. Il y a des polythéistes, qui vient du grec poly plusieurs et théo dieu, qui vénèrent de nombreuses divinités, plus ou moins en lien avec des fonctions spécialisées. Par exemple, chez les Romains, Jupiter, dont on parle de temps en temps, le chef tout-puissant, Mars, le dieu de la guerre, et Vénus, la déesse de l'amour. Il y a les panthéistes qui voient des divinités dans toutes les choses visibles et invisibles sur Terre. Chez les animistes, par exemple, tout ce qui se passe au quotidien est la conséquence de la volonté et de l'action des forces spirituelles auprès desquelles l'individu doit obtenir des faveurs matérielles pour une bonne récolte ou une bonne santé, ou en subir les conséquences néfastes. Pour les panthéistes, tout est Dieu, le monde est Dieu, et la déclinaison moderne de ce sens du divin se retrouve peut-être chez ceux qui puisent leur énergie au contact des arbres. Je n'ai rien contre les promenades en forêt, au contraire, mais pas au point d'en tirer des enseignements spirituels et surtout en donnant de l'argent à des gourous qui font la promotion et la mise en pratique de ce panthéisme naturel, contemporain et à la mode. Il n'y a personne qui pratique ça, donc je pense pas.
Pas encore.
Même les athées, avec un A primitif, donc sans Dieu, qui veulent vivre sans Dieu, se servent de la notion de Dieu pour le nier. Nous en arrivons aux théistes ou monothéistes, qui affirment l'existence d'un Dieu personnifié, mais distinct du monde, un Dieu transcendant au-dessus, unique. Le Dieu unique, c'est le Dieu d'Abraham, du judaïsme, c'est Allah, Dieu de l'islam, et le Dieu trinitaire des chrétiens, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous y reviendrons tout à l'heure. Pour les uns et pour les autres, en général, donc tout le monde, les divinités sont des agents revêtus de traits personnels qui peuvent ce que les humains ne peuvent pas. Invisibles comme les morts, ils causent par leur puissance les événements que subissent les humains. Dans leur recherche de sens de ce qui arrive, l'humain cherche le pourquoi. La puissance des dieux s'exerce spécialement sur la mort, contre laquelle le combat de l'humanité se conclut toujours par la défaite. Les dieux méritent le nom d'immortels, ils demeurent quand passent les mortels. La plupart des religions affirment l'existence de puissances invisibles nocives, les diables, les dieux eux-mêmes recèlent une part de méchanceté souvent et s'opposent en général aux esprits de malignité par la bonté qu'ils manifestent. Ils sont aussi, au final, les plus forts. Aux dieux plutôt bons, aux dieux suprêmement bons, on rend un culte, on organise des pratiques religieuses, on adresse des prières, on offre des sacrifices, quelquefois jusqu'au sacrifice humain. Le monothéisme chrétien confesse le Dieu absolu révélé à Moïse au Sinaï. Il s'appelle « Je suis » ou traduit autrement en Exode 3, verset 14, « Je suis celui qui est ». On ne peut pas et on ne doit pas le nommer. Il est Seigneur. Dans le judaïsme, c'est Adonai, Elohim. Dans le texte, c'est écrit YHVH, que certains prononcent Yahvé, mais normalement, on ne le prononce pas. On ne devrait pas le prononcer. C'est, voilà. Dieu ne veut pas qu'on le nomme. Il est au-dessus. Le Dieu de la Bible est révélé dans le texte biblique. Dieu parle, et on a l'habitude d'appeler le texte biblique « parole de Dieu ». Dieu est Seigneur, il est puissant et bon, et il est en opposition par sa plénitude d'existence, sa plénitude donatrice et rayonnante à l'inconstance des dieux inventés par les nations. Par ces quelques réflexions pour cette première partie, nous devons bien reconnaître que notre pensée de Dieu n'est pas purement d'inspiration biblique, même si notre foi est déjà ancienne. Notre pensée de Dieu est influencée par ce que nous voyons, ce que nous entendons et même ce que nous ressentons au niveau émotionnel. L'art, la culture, l'actualité médiatico-politique influencent notre pensée de Dieu. Et il nous faut beaucoup de discernement pour ne pas tomber dans l'idolâtrie. Quelques notions basiques culturelles sur les différentes pensées religieuses du monde antique et contemporain nous sont parfaitement utiles néanmoins lorsqu'une occasion se présente pour échanger sur cette pensée de l'éternité qui se trouve au cœur de l'humain avec nos contemporains, surtout dans ce monde où les déplacements, les voyages, les migrations de population nous amènent à vivre dans une société multiculturelle dans laquelle l'enjeu n'est pas de savoir qui a raison, qui a les bonnes convictions, mais de vivre au quotidien dans le respect et la tolérance des différences. Nous en venons au Dieu de la Bible, le Seigneur Dieu, qui se révèle dans le texte biblique, 1er et 2e Testament. Au commencement, c'est le début de Genèse, Dieu créa les cieux et la terre. Premier verset du livre de la Genèse. Dieu existe avant toute chose. Il est effectivement en dehors et présent dans notre système à trois dimensions. Plat, hop, et puis trois dimensions. Voilà, le point, la ligne droite et le cube. Avec pour nous le temps qui s'écoule, il est inéluctablement, inexorablement. Dieu crée notre monde par la parole. Dieu dit, et la chose matérielle est créée. Jour après jour, la terre devient propice au développement de la vie sans aucune violence, contrairement à d'autres récits de création ou d'origine de la vie sur terre, antique ou moderne, y compris le fameux Big Bang, auquel se rattachent ceux qui veulent ignorer l'action de notre Dieu. Ce que Dieu a créé était très bon, Genèse 1, verset 31, y compris l'homme et la femme à son image. L'évangile de Jean reprend cette idée de parole, Jean 1, verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Simplement, efficacement, paisiblement, Dieu se révèle à l'humanité qui ne tarde pas à s'émanciper de sa présence après la consommation du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme et la femme se cachent et Dieu reste néanmoins en relation avec eux. Il questionne, où es-tu ? Genèse 3, verset 11. Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ? Pourquoi as-tu fait cela ? Et les sanctions tombent. La vie sur terre sera plus difficile au quotidien. Caïn ne tarde pas à tuer son frère Abel. Et là encore, Dieu pose des questions aux survivants. Où est ton frère Abel ? Et Caïn de répondre, je sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ? Très bonne question, suis-je le gardien de mon frère ? Et malgré l'horreur de ce fratricide scandaleux, Dieu met un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Genèse 4, verset 15. Un Dieu qui parle, un Dieu qui pose de bonnes questions, un Dieu qui reste en relation avec l'humain, créé à son image, malgré ses tendances à désobéir, à commettre le mal jusqu'à s'entretuer. Peu de temps après, le déluge détruit une bonne partie du monde vivant terrestre et de ces humains dont il est dit « les pensées de leur cœur se portaient uniquement vers le mal ». Noé néanmoins a pour mission de préserver le monde vivant terrestre et Dieu fait alliance avec lui. Il n'y aura plus de déluge, il n'y aura plus d'extermination du vivant sur terre, à jamais, avec un témoin visible par moment, l'arc-en-ciel. Genèse 9, verset 13. D'autres alliances seront conclues entre le Dieu révélé par le texte biblique et les hommes. L'alliance avec Abraham, choisi pour être à l'origine d'un peuple qui sera le peuple de Dieu, pour au final être le canal par lequel se déversent les bénédictions divines et au final pour toutes les nations de la terre. Dieu fait alliance avec Moïse après la libération du peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte, en lui donnant les tables de la loi. Dieu fait alliance avec tous les humains lors de la naissance de Jésus. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée, chantent les anges. L'incarnation de Dieu qui rejoint l'humanité en la personne de Jésus pour nous enseigner à vivre au quotidien selon la volonté de Dieu. Jésus finit son séjour terrestre attaché sur une croix et mis au tombeau et après sa mort pour la rémission de nos péchés. C'est la nouvelle alliance en son sang qui ne remplace en rien les alliances précédentes qui sont durables pour l'éternité, mais qui étend à l'ensemble de l'humanité la possibilité de rejoindre le peuple de Dieu. Nous voyons par là que le Dieu qui nous rassemble aujourd'hui autour de sa parole est un Dieu qui lui-même parle, agit, interpelle, s'engage et s'attend à ce que les humains adhèrent et contribuent à l'annonce, à l'avancée de son projet. Je vais vous lire l'article 1 de notre confession de foi qui concerne notre compréhension de Dieu au sein de notre communauté mennonite. Cette confession de foi a été adoptée par la réunion des délégués il y a une dizaine d'années. Donc l'article sur Dieu, le premier article. Nous croyons en un seul Dieu qui accueille favorablement tous ceux qui s'approchent de lui par la foi. Nous adorons le Dieu saint et unique, à la fois Père, Fils et Saint-Esprit pour l'éternité. Nous croyons que Dieu a créé toutes choses, visibles et invisibles. Par Jésus-Christ, il propose salut et vie nouvelle à tout homme, fortifie aujourd'hui l'Église et soutient toutes choses jusqu'à la fin des temps. Selon l'Écriture, Dieu a choisi un peuple de foi. À travers Abraham et Sarah, ses membres sont appelés à l'adorer, lui seul, à témoigner des desseins divins en faveur des hommes et de toute la création, et à aimer leurs prochains comme eux-mêmes. Saisis par le Saint-Esprit, grâce à la fidélité de Jésus-Christ, nous devenons membres de ce peuple en confessant qu'il est Sauveur et Seigneur. Nous reconnaissons humblement que Dieu surpasse toute compréhension et toute intelligence humaine. Nous acceptons aussi, avec reconnaissance, que Dieu a parlé à l'humanité et s'est manifesté à nous de plusieurs manières. Nous croyons que Dieu s'est révélé avant tout par le Fils, la parole incarnée, qui a fait connaître l'être et le caractère divin. La gloire merveilleuse de Dieu et son immense compassion sont parfaites en son saint amour. Sa puissance souveraine et sa grâce éternelle sont parfaites en son amour tout-puissant. Sa connaissance sur toutes choses et son souci de la création sont parfaits et son amour protecteur. Sa colère contre le péché et sa tendre miséricorde envers les pécheurs sont parfaites en son amour juste. Sa promptitude à pardonner et sa puissance à transformer l'être humain sont parfaites en son amour rédempteur. Sa justice et sa grande patience envers l'homme sont parfaites en son amour, allant jusqu'au sacrifice. Son immense liberté et le don de lui-même sont parfaits en son amour fidèle. Gloire soit rendue au Dieu trois fois saint et miséricordieux pour l'éternité. Il est question d'amour juste, de puissance à transformer l'être humain, de grâce éternelle et donc d'espérance. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. On parle de Dieu trinitaire, bien que ce terme ne figure pas dans la Bible. Les trois entités sont en relation pour un projet commun qui englobe les humains terrestres et l'avenir de la planète. Nous attendons le retour de Christ et en général nous attendons réellement un retour terrestre. Et en même temps, nous nous attendons à une vie en sa présence dans les cieux après notre mort terrestre. À un moment donné, il va falloir éclairer notre pensée. Quand on lit des petites phrases du texte biblique et qu'on en fait un long commentaire où l'on projette nos idées influencées par notre éducation et notre culture, même si elle est évangélique, nous avons tendance à passer à côté du projet de Dieu. Assis sur un nuage dans les cieux à chanter les louanges du Créateur, ou ressuscité pour un séjour terrestre dans un monde où le mal aura disparu, Donc un jour, il va falloir éclaircir les idées. La Bible dit plutôt dans le grand texte qu'un jour nous ressusciterons à l'image de Jésus et il y aura un règne terrestre du Christ. Voilà. Et nous, on sera ses sujets. Voilà. Donc assis sur les nuages dans les cieux, c'est une allégorie, c'est du chant, c'est de la poésie, c'est pas forcément le fond du texte. Mais notre espérance est réelle quand même. Les alliances successives, le séjour de Jésus sur terre et surtout sa résurrection montrent clairement que Dieu a un projet de restauration de sa création. De restauration initiale pour que tout redevienne très bon comme ça l'était au départ. Nous remarquons néanmoins, dans la Genèse, nous partons d'un jardin idéal pour arriver à la description dans l'Apocalypse d'une ville nouvelle, appelée la Nouvelle Jérusalem, avec des arbres et de l'eau, vers laquelle Dieu lui-même descend pour y régner. Le mal n'aura plus droit de cité, la résurrection de Jésus amplifie cette phase de restauration. La victoire sur la mort par sa résurrection prouve que le mal est vaincu. Tout est accompli, a dit Jésus, dans un soupir avant de mourir sur la croix. Par sa résurrection et le pardon de nos péchés que Dieu nous accorde, nous avons la certitude de notre salut. Ce n'est pas une raison pour ne pas nous impliquer dans le projet de Dieu qui progresse de génération en génération. Mettons en œuvre l'enseignement de Jésus sur l'amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. S'impliquer dans le projet de Dieu, c'est mettre en œuvre l'enseignement du Christ. L'affirmation « Je suis sauvé par grâce et par moi-même pécheur de nature, je ne peux rien faire de bon » est simplement du christianisme populaire à bon marché. Jésus nous invite à aller à la rencontre de nos contemporains, à être à l'écoute de ceux qui souffrent, à nous impliquer dans notre vie sociale et même à aimer nos ennemis. Notre espérance, c'est que le projet de restauration de la création est en route. Dieu est à l'œuvre, il demande notre engagement et il nous accordera abondamment ses bénédictions. Pour conclure, le Seigneur notre Dieu est un Dieu unique. Il n'est pas le fruit d'une invention humaine, contrairement à toutes sortes de divinités. Dieu est un être de relation, Père, Fils et Saint-Esprit. Ils interagissent, mais dans l'unité. grâce à notre rencontre avec lui par la lecture de sa parole et par les relations que nous entretenons entre frères et sœurs au sein du peuple de Dieu, nous sommes invités à contribuer à l'avancée de son projet. Se positionner pour la justice, pour la paix à toutes les échelles, et mettre en pratique son exemple d'amour donne un vrai sens à notre existence ici-bas. Que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen.